Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Ensemble, une émission qui, d'ordinaire, est consacrée au monde associatif. Ben là, on va l'élargir aujourd'hui, on va évoquer un confrère qui s'appelle L'Humanité, un journal historique en France, qui fait vraiment partie du paysage de la presse française, mais aussi du paysage politique français. Pourquoi parler de L'Humanité aujourd'hui ? Eh bien parce que L'Humanité est en péril, comme bon nombre de journaux. Mais voilà, L'Humanité n'est pas un journal comme les autres. C'est un journal qui, je le dis, fait partie de l'histoire de France, on va dire. Pour nous parler de L'Humanité, eh bien, deux personnes que vous connaissez, parce qu'on les a déjà invitées sur nos ondes. C'est André Bonjour, qui ne va pas parler aujourd'hui de l'instrumentarium de la cathédrale de Chartres, mais de son amour de l'UMA, comme on dit, et puis de son engagement communiste depuis de très nombreuses années. Puis Claude Simon, que vous connaissez aussi, qui a été secrétaire départemental du Parti communiste, et qui va nous parler aussi de son engagement, mais aussi de l'histoire de L'Humanité. Parce que c'est un journal qui a été fondé par une personnalité dont tout le monde se réclame, ou presque aujourd'hui, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que pour certains c'est sans doute à tort, c'est un peu abusif, c'est Jean Jaurès. Claude Simon, je me tourne tout d'abord vers vous. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de l'UMA ?
Oui, bonjour. Bonjour. L'UMA est fondée en 1904. Son fondateur, c'est Jean Jaurès, qui est aussi, dit-on, l'unificateur et un des fondateurs du socialisme français. Et l'UMA s'est devenu, en 1920, au moment où le Parti socialiste et le Parti communiste, ou les communistes dans la SFIO se sont séparés, c'est devenu le journal de la majorité, qui était devenu donc la section française de l'Internationale communiste, Parti communiste français. Ce journal est resté organe du Parti communiste français jusque dans les années 1980-90. Depuis lors, il a repris son nom, je dirais, d'origine, puisqu'il s'appelle « Le journal de Jaurès ». Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à bien des égards, il essaie, autant que faire se peut, d'être digne de son fondateur. Il y a des combats qui étaient ceux de Jaurès et qui sont aujourd'hui toujours ceux de l'humanité. Je pense, bien sûr, au socialisme, je viens d'en parler, au socialisme dans un sens large, en tout cas pluriel, je crois. Deuxièmement, c'est la paix. Jean Jaurès, c'est le grand apôtre de la paix au début du XXe siècle. Et l'humanité a gardé cette mission de se battre pour la paix. Parmi les différentes déclinaisons de ce combat pour la paix, il y a par exemple le combat anticolonialiste. Il s'agissait de se battre contre les guerres coloniales.
C'était à l'époque de l'Indochine, à l'époque de la guerre d'Algérie, bien évidemment.
Bien avant. Dès 1923, avec la guerre du Rif, la guerre qui se déroulait au Maroc, entre le Maroc et l'Espagne, puissance coloniale, et les communistes de l'époque et l'humanité se sont battus beaucoup en France pour populariser la revendication indépendantiste des Marocains du Rif. Et puis effectivement, ensuite, ça a concerné directement les colonies françaises, à commencer par l'Indochine, la guerre d'Indochine, et ensuite, bien évidemment, la guerre d'Algérie. Il faut se souvenir, par exemple, que pendant la guerre d'Algérie, mais je pense qu'André Bonjour saura encore mieux le raconter que moi, pendant la guerre d'Algérie, l'humanité paraissait régulièrement avec des articles coupés en blanc, des pages blanches, parce que tout simplement, elle disait des choses qui étaient interdites sur les ondes et sur les pages françaises.
Bref, l'UMA a toujours été obligé de se battre pour continuer d'exister.
Oui. Oui, je crois que c'est, comme Claude vient de le dire, c'est un journal de conviction, c'est un journal d'opinion. Et depuis le début, il faut effectivement se battre. Pour en revenir à ce qu'il vient de dire sur l'Algérie, effectivement, c'est une période où les communistes étaient un peu seuls, hein, et que c'était très compliqué. Et le journal L'Humanité n'a jamais cédé, quitte à avoir des ennuis. Y compris, il y a des dirigeants qui ont été emprisonnés, il y a des communistes qui ont risqué leur peau. Enfin, je veux dire que... Mais jamais l'humanité n'a cédé. Et c'est vrai que c'est une fierté pour les communistes d'aujourd'hui encore d'avoir un journal et de le défendre parce qu'il est fidèle à ce qu'il est depuis le début. Et quand on parlait de Jean Jaurès, au thème dont a parlé Claude, il y a aussi l'importance énorme que l'humanité donne à la culture en général. Oui. Et ça aussi, c'est très bien.
Oui, on entrera tout à l'heure dans le vif du sujet. On parlera peut-être du dernier numéro. Moi, je l'ai sous les yeux. Vous venez de me l'offrir et je vous en remercie. Est-ce qu'il y a eu aussi des luttes au sein de l'humanité avec des courants différents? Parce que, évidemment, il y a eu le problème Staline, par exemple. Oui, il y a eu Budapest, il y a eu Prague, etc. Est-ce qu'il y avait des combats au sein de la rédaction de l'UMA? Est-ce qu'il y avait une place pour l'opposition aussi?
Alors, il faut sans doute distinguer les périodes. Mais par exemple, dans la première période, 1904-1914, on pourrait même dire jusqu'à 1919, il y avait, dans le socialisme français, des courants différents. Le courant guédiste, le courant jaurassien n'étaient pas les mêmes, et avec des positions différentes, y compris sur la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu différentes orientations qui ont été proposées à ce moment-là. Dans les années 20 et début des années 30, l'humanité passe sous le contrôle d'un parti communiste qui est encore assez faible, en fait, qui s'affaiblit assez rapidement. Et donc, les luttes d'influence à l'intérieur du parti communiste se reflètent dans l'humanité. Les choses changent effectivement, comme vous l'avez dit, avec la période stalinienne. En France, on pourrait dire, à partir des années 30 jusqu'aux années 50, à peu près. Il faut encore faire une parenthèse sur la période de l'occupation. Mais de part et d'autre de cette période-là, il y a effectivement une emprise des organisations et des directions staliniennes sur l'humanité qui, parfois, interdisent en quelque sorte des débats. Ça, c'est clair. C'est vrai sur les procès de Moscou, c'est vrai sur Budapest. Et il y a eu effectivement, à la suite de ce qui se passait à l'intérieur du Parti communiste, un retard de l'humanité à publier un certain nombre d'informations. Ça, c'est très clair. Mais il faut quand même faire quelques parenthèses avec, par exemple, le Front populaire, l'humanité a été le journal, un des deux grands journaux du Front populaire, avec Le Populaire, journal du Parti socialiste, et l'humanité a poussé autant que possible le Front populaire en cousinage, si j'ose dire, avec la République espagnole et avec la guerre d'Espagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Humanité fait partie des rares journaux qui ont, à la Libération, conservé leur titre. Parce que les autres journaux, Le Parisien, qui a été obligé de s'appeler Le Parisien Libéré, et il y a beaucoup de journaux dans les presses régionales, comme ça, qui ont été obligés de changer de nom, Le Temps est devenu Le Monde, parce que ces journaux ont été accusés, à juste raison,
de collaboration.
Donc, c'est-à-dire d'avoir continué à apparaître comme si de rien n'était pendant les 4 années d'occupation. L'Humanité est reparue avec son propre titre, mais elle avait continué à apparaître sous le manteau.
J'allais vous demander qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait des imprimeries clandestines et on le diffusait.
Qui étaient à peine des imprimeries. C'était renéoté ou c'était des choses tirées pratiquement à la main. Mais effectivement, il y a eu des journaux clandestins qui ont été tirés par des militants, la plupart des militants communistes. Mais être militant communiste sous l'occupation, ça voulait dire beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il ne s'agissait pas de signer une carte du parti. Il s'agissait surtout d'être dans l'action et de prendre des risques, de gros risques.
André, bonjour. Vous m'avez dit, j'ai pris ma carte du Parti communiste en 60. Vous avez pris votre abonnement de l'UMA à la même année.
Oh oui, j'ai presque envie de dire que c'est logique. Oui, moi j'ai adhéré à la jeunesse communiste en 1958, donc c'est une date historique en France.
La 58,
voilà. Et puis j'ai adhéré au Parti communiste en 1960, alors j'étais à l'école normale, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai grandi dans un quartier de Paris, comme on dit, donc la misère ne me convenait pas. Et puis la guerre d'Algérie, la guerre. Mon père était un militaire de carrière, il a été tué en Algérie en 1942, et donc la guerre a toujours été quelque chose d'important. Et le désir de paix a toujours été très fort. Et là, à l'école normale, j'ai rencontré des jeunes communistes et j'ai découvert, puisque dans ma famille, j'étais le premier, qu'il y avait d'autres explications et du monde que celles qu'on m'avait données. Et partant de là, j'ai commencé à militer. Mais au début, j'étais adhérent. Et puis, il y a eu 68. Alors ça fait un peu ancien combattant quand on dit ça aujourd'hui.
Mais est-ce que 68, on retient souvent plutôt les Trotskars, les Mao, etc.
Oui.
Mais les communistes, on faisait partie aussi.
Oui, et puis moi je me souviens que ça a été agité parce que à Chartres, au théâtre de Chartres, je me suis fait insulter beaucoup. J'ai évité pas mal d'objets qui arrivaient. Et...
Y compris des balles, hein, vous m'avez dit, je crois qu'il y a des balles qui ont été tirées.
À d'autres périodes, il y a eu quand même avec l'OS... Moi, je sais que j'ai eu des menaces personnellement. Il a fallu accompagner certains dirigeants du parti parce qu'il fallait les protéger. Oui, oui.
On a oublié tout ça.
Voilà le problème.
La fédération du Parti communiste français en Eure-et-Loire a été incendiée.
Oui, incendiée. Elle était place Morard. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, les médias, idéologiquement, du côté des finances, parce que c'est quand même ça la réalité, ont tout fait pour, un, diaboliser le Parti communiste, deux, tous les événements et le développement de ce qui s'est passé en URSS et autres a été tellement déformé, mais il y a eu aussi des choses, des réalités, hein, qui sont bonnes. Mais voilà. Et donc, à force de taper sur les communistes, sur le Parti communiste, c'est comme sur les syndicats. Quand j'entends aujourd'hui des gens de droite dire « Bah oui, mais c'est dommage, il n'y a plus de syndicats en France. » Faut pas manquer d'air, quand même, hein, si vous me permettez l'expression.
— Sur mai 68, l'humanité a été très présente, mais pas forcément, effectivement, uniquement concentrée sur les questions étudiantes, mais elle était présente dans les entreprises. Elle était présente, elle était vendue dans les entreprises.
Oui, c'est plutôt le mai 68 ouvrier conclu par les accords de Grenelle.
Voilà,
c'est
en particulier. Ça, hein. En particulier.
Ouais. Mais... Pour donner un exemple, on partait de Chartres sur le coup de 1h du matin, on allait à l'Humanité chercher les journaux, on revenait sur Chartres, et des gens, des camarades venaient de Châteaudun, Dreux et autres, et les humains qu'on avait, c'était pas les humains pour les abonnés, puisqu'il n'y avait plus de poste, il n'y avait plus... Donc c'est des humains qu'on allait vendre à la porte des entreprises. C'est pour ça que moi, les entreprises de Chartres, j'ai jamais travaillé en entreprise, mais je les connaissais tous, mais à la porte.
Et là, vous étiez bien accueillis, il y avait des vigiles, etc. à l'époque. Non, c'était...
Non. Moi, je me souviens que tant qu'on était à l'extérieur... Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir été agressé à la porte des entreprises. Alors après, les travailleurs, il y a ceux qui applaudissaient, il y a ceux qui disaient qu'ils étaient d'accord, il y a ceux qui nous expliquaient qu'ils n'étaient pas d'accord, mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir été agressé. Les agressions que j'ai subies en tant que militant communiste, c'est au moment de la guerre d'Algérie, dans les manifestations en ville et autres. Ouais. Mais pour le reste, non. Il n'y avait pas ce type d'agression. Sauf l'OS qui, elle, a été très, très violente.
Sur la nature même de l'humanité aujourd'hui, en lien avec les mouvements sociaux, je voudrais dire que dans le mouvement des Gilets jaunes...
Alors, je vais vous poser la question.
Dans le mouvement des Gilets jaunes...
Je voulais y venir plus tard, mais allez-y.
Pardon. Ça
y
est, non. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il était convenu qu'il ne pouvait pas y avoir d'affichage de partis politiques. On a respecté ce genre de choses. On est allé... Les militants communistes sont allés... discuter, mais sans se vêtir en jaune, en disant « voilà, on vient discuter ». Mais beaucoup de gilets jaunes, quand on disait « l'humanité », ça les intéressait. C'est-à-dire que, voilà, dans la population en France, il reste fortement une dissociation, une distinction faite entre l'engagement dans un parti politique et la présence d'un journal d'opinion.
Par exemple, les amoureux de littérature... achète souvent l'humain. Il y a toujours eu des chroniqueurs, y compris des chroniqueurs qui n'étaient pas vraiment communistes. Je pense à Patrick Besson qui a été chroniqueur.
Oui, bien sûr. Oui, Jean Rouault a été chroniqueur, François Taillandier et d'autres. Mais à l'origine de l'Humanité, et excusez du peu, il y avait dans la rédaction de l'Humanité, outre Jean Jaurès, normalien, Octave Mirbeau, qui est quand même un écrivain de
journal d'une femme de chambre,
Anatole France. Henri Barbus, Romain Rolland. Enfin, c'est pas n'importe qui.
Voilà. Hein, ouais.
Puis après, Gabriel Péri, Aragon, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une tradition. Et il y a encore une dizaine d'années, à peu près, l'Humanité publiait une fois par semaine un poème, seul. Dernière page.
Oui, on peut
en lien avec le printemps des poètes en Val-de-Marne.
Ouais. Les poètes qui ont eu leur carte au parti, il y en a un sacré paquet.
Il y en a un grand nombre.
Éluard, Guilvic, plein de très grands poètes.
Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que l'humain continue cette tradition. Et c'est ce choix pour la culture. Et par exemple, quand on prend l'exemple de l'humanité qu'on appelle l'humanité du vendredi, qui est l'humanité essentielle. Alors, il y a les infos, on va dire, mais ce qui fait pour moi la force de ce numéro du vendredi, c'est la partie débat. Et c'est, à ma connaissance, le seul journal en France qui délibérément décide que plus de la moitié de sa pagination est proposée.
Ouais.
Alors, il y a bien sûr des communistes qui interviennent, mais l'autre jour, je m'amusais à faire le compte de ceux qui étaient intervenus. Il y avait plus de non-communistes qui étaient dans les débats que de communistes eux-mêmes. Donc, et ça, c'est important.
Ouais. Je vous pose la question, puis après on revient à l'humain. Vous, Claude Simon, comment vous avez découvert le communisme?
Voyons.
Vous, c'était pas l'Algérie, vous êtes trop jeune.
Je suis trop jeune pour l'Algérie, et j'étais, hélas, un peu trop jeune pour mai 68 aussi. Cela dit, c'est quand même un peu dans le prolongement de mai 68, c'est-à-dire que j'ai un frère qui a été tenté par le Parti communiste, puis qui s'en est éloigné. Mais antérieurement, j'ai un père qui a été résistant. Fortement intéressé par le mouvement lié au Front populaire et à ses suites dans la résistance. Et ce que je raconte là, je ne l'ai raconté qu'une seule fois en présence d'associations chrétiennes.
Je mesure ma chance. Bah, décidément.
Voilà. Parce que c'est peut-être cela qui pose ce genre de questions, et je trouve ça très bien, mais c'est difficile ensuite à assumer, mais je vous raconte. Mon père donc est revenu de déportation, après deux ans de captivité, et il est revenu en disant que, quand il voyait ce que l'appartenance à un parti politique pouvait créer de catastrophe, il pensait au parti nazi, il n'adhérerait jamais à aucun parti politique. Et dans le même temps, son chef de réseau de résistance, a adhéré, qui était démocrate chrétien à l'origine, a adhéré au Parti communiste. Il est devenu le responsable local, ce n'était pas en Eure-et-Loire, du Parti communiste. Et mon père lui est resté fidèle comme un ami. Mais il n'a jamais adhéré au Parti communiste. Et moi, je me suis dit, quand j'ai eu 20 ans, ça vaut peut-être la peine quand même d'essayer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un trait sur l'engagement politique comme ça? C'est une autre génération. Je vais essayer de faire ce que mon père a décidé de ne pas faire.
Vous êtes devenu communiste. Excusez-moi, vous interrompez. Vous êtes devenu communiste à une époque où justement le Parti communiste revisitait un peu son passé. Ou...
Bah écoutez, on parlait de mai 68 tout à l'heure. Oui. Il faut aussi penser, par exemple, à août 1968. Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit, dit Jean Ferrat, à propos de ma France, mais c'est-à-dire à propos de camarades, pardon, c'est-à-dire le printemps de Prague étouffé par les armées du pacte de Varsovie. C'est la première fois, par opposition à ce qu'on disait tout à l'heure à Budapest, c'est la première fois que, haut et fort, le Parti communiste français et l'humanité s'opposent à une décision militaire du pacte de Varsovie et du Parti communiste de l'Union soviétique. Ouais. Ça a été un moment absolument essentiel, ça. Et donc, mai 68 a aussi peut-être permis ça.
Oui. Voilà. Il nous reste, 10 minutes. Si on fait cette émission, c'est parce que l'humanité, comme d'autres journaux, je vous le disais en début d'émission, est en péril. Alors, qu'est-ce qui se passe très exactement? Un état des lieux.
Bah, disons que le journal est dans de telles difficultés financières que le tribunal de Bobigny l'a pris sous son aile, comme on dit. Et le journal, c'est, je crois, à 6 mois pour faire les preuves qu'il peut continuer à vivre. Alors, continuer à vivre, il est évident que ce qui peut rendre l'humanité pérenne, c'est de doubler le nombre d'abonnements, parce que c'est les abonnements qui font que ça fonctionne bien. Alors, il y a également la souscription. Alors, la souscription, elle est quasiment permanente, mais là, elle est obligatoirement plus prenante et plus importante. Et il faut dire qu'il y a des réactions, de bonnes réactions. Il y a dans l'UMA quotidiennement des prises de position d'un certain nombre de gens qui sont éloignés de nous pour plein de raisons, mais qui, comme vous le disiez tout à l'heure, disent c'est un journal qui, historiquement, est important. C'est le problème du pluralisme de la presse. Hein. Et il n'y a pas longtemps, on discutait tous les deux du journal La Croix, par exemple.
Oui, parce que vous avez la particularité d'être à la fois abonné à l'UMA et à La Croix.
Ouais, je ne suis pas abonné à La Croix, je la reçois assez souvent. Mais je continue à dire que c'était, pour moi, ce sont les deux seuls journaux d'opinion qu'il y a en France. Et La Croix est un journal qui est bien fait dans la mesure où, voilà, on défend des opinions. Et il est respectueux, en plus, des autres, ce qui n'est pas le cas de tous les journaux. Donc j'y tiens.
la notion de presse d'opinion est une notion essentielle. C'est-à-dire qu'une opinion, ça n'est pas une marchandise comme une autre. Une information, ça n'est pas une marchandise comme une autre. Si on traite l'information comme une marchandise, on va aller, selon la loi du capitalisme, à rechercher le moindre coût et le meilleur bénéfice. Et dans ce cas-là, on vend du papier, on vend en fait de la pub, mais on ne vend plus des opinions. On ne vend pas, on ne diffuse pas une opinion. Ouais. Voilà.
Et aujourd'hui, mais une grande partie de la presse française est dans les mains de quelques-uns.
Oui, quelques-uns. Écoutez, il y a une dizaine d'années, on disait que 90% de la presse française était entre les mains de marchands de canons, c'est-à-dire le groupe Lagardère et le groupe Dassault, si vous regardez le Figaro, etc. Aujourd'hui, il y a une tendance à ce qu'ils soient rachetés par des oligarques, en particulier des oligarques du gaz, liés en particulier au régime russe, à Vladimir Poutine, a été racheté Le Monde récemment par un oligarque tchèque qui avait déjà racheté Marianne et puis je ne sais plus quels autres journaux. Donc c'est catastrophique parce que ces gens-là ne recherchent plus du tout à diffuser des opinions, ils cherchent à vendre du gaz, à prendre des positions de pouvoir politique et à capter comme ça, à capter les cerveaux.
Voilà. La presse est devenue une sorte de cheval de Troie.
Voilà, c'est ça, absolument. Oui. Absolument.
Alors, évidemment, on va peut-être parler de l'UMA aujourd'hui, parce que la ligne de l'UMA a évidemment suivi l'évolution aussi du Parti communiste. Le Parti communiste, je le rappelle quand même, a abandonné par exemple la dictature du prolétariat et bien d'autres choses. Elle a revisité son passé, donc je suppose que la ligne s'en ressent aussi.
Oui, alors, chose importante, l'Humanité n'est plus l'organe central du Parti communiste français, ce qui donne aux journalistes de l'UMA leur liberté de journaliste, mais ce sont des journalistes qui affirment leur conviction communiste. Mais quand on lit l'UMA aujourd'hui, moi j'avoue que je trouve ce journal je le trouve de mieux en mieux fait. Et surtout, moi, je suis admiratif. Quand on sait dans quelles difficultés travaillent les journalistes, on se dit que bravo, bravo pour eux. Mais c'est très, très varié. Et puis, quand on regarde les unes...
C'est celui du jeudi 7 mars. Un rapport accablant du CHCT. Christophe, 50 ans, mort de la casse de l'AFPA. C'est vrai que l'AFPA ne fait pas toujours la une. Hein. Voilà. Pas souvent.
c'est ça le problème, c'est d'arriver... à parler des gens, oui, et non pas à parler... Il y a un truc qui m'agace le pire, c'est le mot « people ». Vous vous rendez compte qu'on a réussi à faire croire aux gens que le « people », c'est-à-dire ça veut dire « peuple », et bien le « people », c'est tous les gens qui ont le plus d'argent, qui sont les plus beaux, paraît-il, les plus... Et ça, c'est quoi? Ça, c'est vraiment le résultat de... On vend pas... C'est pas des opinions, c'est on vend des choses, oui. Le « people ». Ça, c'est vraiment la chose qui me dépasse le plus.
Oui, la question sociale a un peu disparu des unes, généralement.
De l'humain?
En général.
Oui, c'est possible, oui. Enfin, je pense. Oui, en tout cas, elle n'est pas traitée de la même façon, oui. Ça, c'est sûr. Je vous dirais autre chose. On a parlé de la culture. Il y a l'humanité, et c'est aussi une forme de culture populaire que tout le monde connaît, que tout le monde ne fréquente pas forcément, mais qui est un élément structurant de la vie de l'humanité, c'est la fête de l'humain.
La fête de l'humain,
dont on
n'a
pas
sûr.
Encore parlé.
Tout le monde y est passé.
Mais non, pas tout le monde. Il y en a encore qui hésitent, vous savez. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça, c'est vrai que ça peut être parfois un peu effrayant. Mais voilà, c'est à la fois de grands moments de culture, de grands moments de solidarité et de fraternité, de grands moments de recherche politique. C'est-à-dire qu'il y a, je ne connais pas d'endroit... En France, où on débat autant que la fête de l'humanité. Je ne connais pas d'endroit où autant de gens à la fois écoutent de la musique classique. Je ne connais pas d'endroit en France où tant de gens dansent ensemble. Oui. Et je ne connais pas de fête publique en plein air où on fait du théâtre, où on expose de la peinture ou de la sculpture et du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une... Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la fête de l'UMA, avec les contraintes, je dirais, de sécurité qui sont de plus en plus hautes et les attentats de 2015 en ont rajouté dans ce domaine-là, ça hausse les exigences de sécurité et ça coûte de plus en plus cher. Et la fête de l'humanité, qui était un moyen... souvent d'équilibrer les budgets, aujourd'hui, elle n'a plus cette fonction-là.
Il reste une petite minute. Je voulais juste vous poser une question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'idéologie communiste? Ça mériterait une émission, Marc.
Oui,
je
dis ça. Oui,
vous posez la question.
Non, mais moi, c'est tout simple. Je pense que l'idée communiste, pour moi, continue à être une idée juste. Et quand on est, quand on discute avec des chrétiens, il y a quand même un mot qu'on a en commun, c'est le partage. Parce que le communisme, c'est justement le partage. Et ce qui est le pire aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que toutes ces richesses, parce que faut arrêter, la France est un pays riche. Hein, et bien ces richesses, elles ne sont pas bien partagées. Hein, on ne va pas revenir dans les chiffres. Mais pour moi, le communisme, oui, c'est l'avenir. Alors après, c'est un avenir qu'il faut construire ensemble et en tenant compte, y compris de ce qui a pu pas bien se passer.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
On arrive à la fin de cette émission. À ceux de nos auditeurs qui s'étonneraient que j'ai invité deux militants communistes dans nos studios, je répondrai par une petite histoire qu'on m'a racontée. C'est une dame qui est une vieille habitante du quartier de Rochèvre et qui a vu construire son église. Et son église, elle a été aussi construite par des militants communistes qui venaient donner un coup de main à leurs frères prolétaires chrétiens. Donc, ne serait-ce que pour ça, je trouve que vous avez votre place ici dans notre studio. Et je voulais vous remercier d'y être venu. On va se quitter avec une grande chanson et puis on va rendre hommage par la même occasion au créateur d'humanité. C'est la chanson « Jaurès » de Jacques Brel. Merci à tous les deux.
Merci.
Et merci à Simon Alain en régie technique. Surtout, restez fidèles au programme de Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes. Elle aussi.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avait pu naître. Il mourait à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? pourquoi ont-ils tué? J'aurais